Vous écoutez RFI, la radio du monde. Il est 20h en temps universel et à Cocody, chez Le Juice et chez Chino Biana, 22h à Paris. 21h en temps universel et le journal est présenté par Juliette Petrashevski. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Claude, bonsoir à tous. À la une de ce journal, la COP29 vient d'ouvrir ses portes à Bakou ce lundi. L'Azerbaïdjan accueille l'événement avec autour de la table plus de 100 chefs d'État. Alors que les pays du monde entier ont adopté aujourd'hui de nouvelles règles de l'ONU pour le marché controversé des crédits carbone, on reviendra notamment sur la cérémonie d'ouverture de ce matin. En Haïti, le nouveau Premier ministre investi, l'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé, il vient de prêter serment, son portrait dans un instant. En Israël, un ancien membre du cabinet de guerre fait des révélations fracassantes. Il révèle notamment des objectifs cachés de la guerre à Gaza et notamment l'établissement de colonies dans l'enclave palestinienne en guerre. On en parle dans ce journal. Et puis en Arabie Saoudite, un double sommet à Riyad, une rencontre consacrée au conflit en cours au Proche-Orient, une rencontre sur laquelle plane l'ombre de Donald Trump. Ce 11 novembre, c'est le top départ des négociations climat à Bakou, où se déroule la COP29. 198 États se réunissent en Azerbaïdjan pour cette conférence de l'ONU sur le changement climatique. Plus de 100 chefs d'État et 50 000 participants pour mieux lutter contre le réchauffement planétaire et ses conséquences. Où que vous soyez sur la planète, vous l'avez peut-être remarqué, les températures mondiales battent encore des records cette année. Les catastrophes climatiques s'enchaînent. Dernièrement, les images des inondations meurtrières en Espagne ont fait le tour du monde. On revient donc sur la cérémonie d'ouverture de cette COP29. C'était ce matin, suivi par Jeanne Richard.
It gives me great pleasure.
C'est avec un grand plaisir que je déclare la 29e conférence de l'ONU sur le changement climatique ouverte.
Comme le veut la tradition, c'est le président de la COP de l'année précédente, celle de Dubaï, qui ouvre la conférence. Sultan Al-Jaber, qui débute en faisant référence à l'élection du climato-sceptique Donald Trump aux États-Unis et aux guerres en Ukraine et à Gaza.
Nous nous réunissons dans une période de complexité et de conflit. Et malgré tout, je peux vous dire que nous, aux Émirats, nous choisirons toujours la collaboration et le dialogue plutôt que la division, la paix plutôt que les provocations.
And peace over provocation.
Il passe ensuite le flambeau à Mukhtar Babayev, ministre de l'Environnement azerbaïdjanais, qui devient donc officiellement le président de la COP29.
Welcome to Azerbaijan.
Bienvenue en Azerbaïdjan, bienvenue à la COP29. La priorité de ma présidence est de déterminer un nouvel objectif de financement climat qui doit répondre aux besoins et aux priorités des pays en voie de développement.
Un objectif très ambitieux, car selon la dernière estimation de l'ONU, les besoins se situent entre 5 000 et 6 900 milliards de dollars à trouver ces 5 prochaines années.
Jeanne Richard, un nouveau Premier ministre investi en Haïti, l'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé, a prêté serment aujourd'hui en direct à la télévision haïtienne. Après seulement 5 mois au pouvoir, le Premier ministre Garry Conille a en effet été démis de ses fonctions par le Conseil présidentiel de transition, l'exécutif au pouvoir en Haïti. Ce dernier avait acté dans le journal officiel ce matin la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le nouveau chef de la primature, l'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé, a donc été investi. Son portrait avec Nicolas Roca.
C'était l'un des candidats venus de la société civile dont le profil avait déjà été étudié au printemps par le Conseil présidentiel de transition. À 52 ans, Alix Didier Fils-Aimé a été président de la Chambre de commerce et de l'industrie et candidat malheureux au Sénat en 2015. Son père, connu pour avoir été un militant de la cause démocratique, emprisonné durant la dictature des Duvaliers, a ensuite été élu député dans les années 1990. Alix Didier Fils-Aimé, lui, est diplômé de l'université de Boston aux États-Unis. Il a ouvert plusieurs entreprises en Haïti, dont une chaîne de pressing et le fournisseur d'accès à Internet Hainet. Sur son profil LinkedIn, il se présente comme un entrepreneur citoyen engagé. Il est donc nommé Premier ministre, une nomination contestée par Garry Conille, qui jusqu'au bout a tenté d'empêcher la publication du nom de son successeur au journal officiel. Il estime que le CPT n'a pas autorité pour le révoquer. La situation sécuritaire pourrait-elle encore se dégrader cette semaine ? La police nationale d'Haïti a annoncé renforcer son dispositif dès ce lundi. alors que plusieurs chefs de gang menacent de faire ressurgir la terreur dans les rues de Port-au-Prince.
Et toujours en lien avec Haïti, un avion de ligne de la compagnie américaine Spirit Airlines à destination de Port-au-Prince a été touché par des tirs d'armes à feu et dérouté vers la République dominicaine. C'est la compagnie qui l'a annoncé aujourd'hui et qui fait état d'un blessé léger. Alors que le Proche-Orient est au centre de l'attention internationale, en Israël, les propos de l'ancien chef d'état-major et ancien membre du cabinet de guerre, Gadi Eisenkot, ne passent pas inaperçus. L'homme s'est livré à un réquisitoire accablant contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans un entretien accordé à une chaîne de télévision israélienne, l'ancien responsable révèle notamment les objectifs cachés de la guerre à Gaza et en particulier l'établissement de colonies juives dans l'enclave palestinienne en guerre. À Jérusalem, Sami Bourelifa.
Depuis le début de la guerre, le Premier ministre Benjamin Netanyahou le répète régulièrement. Israël n'a pas l'intention de recoloniser Gaza. Pourtant, ce qui est constaté sur le terrain est différent, relève Tomer Persico, chercheur israélien à l'université Reichmann de Herzliya.
Il y a une volonté claire de certains ministres au gouvernement de réinstaller des Juifs à Gaza. Au regard du droit international, il est légitime et même souhaitable de déplacer une population, en l'occurrence les Gazaouis, lorsque des opérations militaires ont lieu. Mais selon ce même droit international, vous devez permettre à ces gens de retourner dans leur maison à la fin des opérations militaires.
Dès le début de la guerre en octobre 2023, Israël a entrepris de vider le nord de Gaza de sa population. Un an plus tard, l'armée a mis un coup d'accélérateur à ce déplacement forcé des civils. Le nord de Gaza est hermétiquement assiégé, sans eau ni nourriture. La population a le choix entre partir vers le sud de l'enclave ou rester et mourir. Une situation alarmante, dénonce le chercheur.
Je crains vraiment que tout cela ait pour objectif de créer à l'avenir des colonies juives israéliennes dans le nord de Gaza. Et je ne sais pas si personnellement je pourrais encore vivre en Israël si mon pays, au lieu de réduire l'occupation, décide au contraire de renforcer l'occupation de la Palestine. C'est une atrocité et j'espère que cela n'arrivera pas.
C'est pourtant bel et bien le plan du gouvernement israélien, confirme Gadi Eisenkot, ancien membre du cabinet de guerre de l'État hébreu. Sami Bourlifa, Jérusalem. RFI.
Et sur le même sujet, ce lundi, un ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a promis l'annexion en 2025 des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Il a par ailleurs déclaré voir une occasion dans le retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Lors d'un discours au Parlement, il a également déclaré, je cite, que la création d'un État palestinien mettrait en danger l'existence de l'État d'Israël. Fin de citation. De son côté, à Gaza, le ministère de la Santé du Hamas fait état de plus de 43 000 600 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël en octobre 2023. Plus globalement, la situation au Proche-Orient était au cœur des discussions et des déclarations en Arabie Saoudite aujourd'hui. Un double sommet a été organisé à Riyad. Les 22 pays de la Ligue arabe et la cinquantaine d'États réunis au sein de l'Organisation de la coopération islamique ont répondu présents. Une rencontre consacrée au conflit en cours au Proche-Orient. Une rencontre sur laquelle plane l'ombre de Donald Trump qui s'apprête à retrouver le bureau ovale de la Maison-Blanche. Nicolas Falaise.
Dès l'ouverture du sommet, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a utilisé le terme « génocide » pour qualifier les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza. L'hôte du sommet de Riyad a également appelé l'État hébreu à respecter la souveraineté territoriale de l'Iran et à s'abstenir d'attaquer son territoire. Des déclarations très fermes, autour desquelles se retrouveront les membres de la Ligue arabe comme ceux de l'Organisation de la coopération islamique, même si de fortes divergences existent entre ceux qui ont normalisé leurs relations avec Israël et ceux qui s'y opposent, à commencer par la République islamique. La réunion de ce lundi en Arabie Saoudite se déroule moins d'une semaine après l'élection de Donald Trump aux États-Unis et alors que les pays de la région s'interrogent toujours sur les intentions de ce dernier. Le prochain président américain s'efforcera-t-il de mettre fin au conflit en cours comme il l'a promis ou sera-t-il un soutien inconditionnel de l'État hébreu dans la guerre comme dans le projet de l'actuel gouvernement israélien de torpiller toute perspective d'établissement d'un État palestinien.
Nicolas Falaise. En Géorgie, la présidente Salomé Zourabichvili, en conflit avec le gouvernement, réclame de nouvelles élections législatives. Déclaration qui intervient après la victoire en octobre du parti au pouvoir du rêve géorgien, dénoncée comme frauduleuse par l'opposition. La présidente accuse la Russie d'ingérence électorale. Elle a annoncé qu'un groupe de députés de 8 pays européens, dont la France et l'Allemagne, se trouver en Géorgie pour aider à la recherche de moyens pour sortir de cette crise. Fin de citation. RFI, il est 22h09 à Paris. Merci beaucoup d'avoir écouté ce journal.